Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous écoutez Crime Story, les meurtres de la gare de Perpignan, deuxième et dernier épisode. Entre 1995 et 1998, trois jeunes femmes brunes disparaissent dans le même quartier de la gare à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Les cadavres de deux d'entre elles sont retrouvés mutilés. Un homme est arrêté et emprisonné avant d'être finalement remis en liberté. Et en 2001, une nouvelle jeune femme disparaît à son tour. Sur les photos, Fatima est belle, a le regard doux et les sourcils bien dessinés. Ses cheveux bruns, mi-longs, souples et brillants, atteignent tout juste ses épaules. En 2001, Fatima Hidraou a 23 ans. Et en parallèle de ses études, elle travaille comme caissière chez Darty, le magasin d'électroménager. Le vendredi 9 février, vers 19h, elle ferme sa caisse et dit au revoir à ses collègues. Puis elle sort du magasin à pied pour rentrer chez elle. C'est un chemin que Fatima connaît bien. Ce soir-là, elle doit passer par le boulevard Ningesser et Colli. Le même boulevard que Mokhtaria et Marie-Hélène empruntaient le soir de leur disparition après être passés dans la rue Courteline. Un dernier appel est localisé sur son téléphone, puis plus rien. Ni message envoyé, ni retrait bancaire effectué. Le lendemain, le samedi 10 février, sa sœur Samira se présente au commissariat de Perpignan. Fatima a disparu et plus personne n'arrive à avoir de ses nouvelles. Les appels angoissés de ses parents vers son téléphone portable tombent directement sur sa messagerie. L'hypothèse de la fugue est sur la table, mais elle semble peu crédible. Décrite comme une fille réservée mais équilibrée, Fatima mène de front des études de lettres en même temps que son petit boulot de caissière. On ne lui connaît pas de liaison, pas d'ennemis non plus. La sœur de Fatima le reconnaît, les relations avec sa famille sont tendues. Peu de temps avant de disparaître, elle a exprimé à ses proches son souhait de déménager dans un petit appartement afin de prendre un peu de distance avec son cercle familial. Dès le signalement de cette nouvelle disparition, la presse s'emballe. C'est tout de même la quatrième femme en 6 ans qui se volatilise aux abords de la gare de Perpignan.
Inquiétude à Perpignan où depuis 5 jours, la police recherche activement une jeune étudiante d'origine marocaine. Si aucun lien ne permet de rapprocher sa disparition de 3 autres cas similaires, plusieurs coïncidences troublantes amènent les forces de l'ordre à envisager le pire puisque dans ce secteur où l'on a perdu la trace de la jeune Fatima, 2 jeunes filles ont été retrouvées mortes en 95 et 98.
La police mobilise tout de suite 100 d'hommes. Ils refont le dernier trajet de Fatima, un parcours de 3 km, allant du magasin Darty à chez elle. Les premiers jours sont déterminants. Ils le savent, et lors des précédentes disparitions, ils ont perdu trop de temps. Les amis de Fatima et ses camarades de promo se lancent eux aussi sur ses traces. Le mercredi 21 février au soir, plus de 10 jours après sa disparition, 3 étudiants trouvent sur le sol d'un parking commercial situé à quelques centaines de mètres de chez Fatima un bulletin de salaire à son nom. Il l'apporte au directeur du magasin, qui prévient immédiatement la police. C'est la preuve que la jeune femme est bien passée par là. Mais surtout, le directeur du magasin se souvient d'une scène et la raconte. Le vendredi 9 février, un peu après 19h, alors qu'il ferme l'entrepôt, il voit sur le parking de son commerce une voiture blanche, garée. Un couple assis à l'avant semble se disputer. La femme, qu'il pense être Fatima, crie, tente de sortir, mais se fait ramener de force par l'homme à l'intérieur de la voiture. Le directeur craint que ces personnes soient là pour faire du repérage et cambrioler l'entrepôt. Il relève le numéro de la plaque d'immatriculation. Les policiers consultent le fichier des véhicules du département. Et c'est comme ça qu'ils remontent jusqu'à un homme. Un certain Marc Delpech. Damien Delseny, c'est un père de famille de 34 ans.
Oui, un homme qui gère un bar musical dans le centre-ville de Perpignan, qu'il gère avec son frère. Il a 2 enfants, donc voilà, un profil plutôt classique.
Il est interpellé le jeudi 22 février 2001, 13 jours après la disparition de Fatima chez la famille de son épouse en Meurthe-et-Moselle, près de Baccarat.
Oui, il va être ramené très très vite dans la nuit à Perpignan, où il est placé en garde à vue et où il va reconnaître très vite le meurtre de Fatima Hidraou. Et le 9 février, il est en voiture dans Perpignan et il prétend tomber par hasard sur Fatima Hidraou au moment où elle sort de son travail. Donc il l'aborde, il lui dit que voilà, qu'il veut plus que de l'amitié, qu'il veut une vraie relation. Elle refuse, il insiste, elle résiste. Et il explique aux policiers qu'à ce moment-là, il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle meure. Alors, lorsqu'il est questionné sur la suite, parce qu'à ce moment-là, on n'a toujours pas retrouvé le corps de Fatima Hidraou, il explique qu'il ne se souvient pas tellement de ce qui s'est passé après, mais qu'il serait allé chercher du matériel de plongée, parce qu'il fait de la plongée sous-marine, et qu'il aurait pris sa voiture avec le corps de Fatima Hidraou à l'intérieur dans la nuit pour se rendre dans une crique tout près de la frontière avec l'Espagne, et qu'il serait ainsi descendu dans cette crique, donc avec le corps de Fatima sur le dos, avec sa combinaison de plongée, qu'il se serait immergé avec le corps de Fatima, qu'il aurait nagé avant de l'abandonner un peu au large, assez loin du rivage, et de revenir ensuite sur le bord. Il a même cette expression qu'il l'aurait en quelque sorte confié à la mer.
Le procureur prévoit de reconstituer ce crime à Cap Béhar dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 mars.
Parce que les enquêteurs, ils sont un peu suspicieux sur cette version. Ils voient assez mal comment on peut en pleine nuit descendre dans une crique très abrupte avec un corps sur le dos. Enfin voilà, tout ça leur paraît un petit peu étrange. Et cette reconstitution, elle va pas avoir lieu parce que le mardi 13 au matin, un promeneur va trouver à côté de l'étang de Canet-en-Roussillon. Alors là, à Canet-en-Roussillon, on est à vraiment 5-10 km de Perpignan, donc on n'est pas du tout à l'endroit où Marc Delpech avait indiqué avoir jeté le corps. Et là, ce promeneur, il va trouver le corps nu de Fatima à demi enterré dans l'eau. Donc évidemment, la reconstitution prévue au Cap-Béhar, elle est annulée. Marc Delpech est à nouveau convoqué chez le juge pour être interrogé. Il lui explique, on lui dit, en fait, vous ne l'avez pas mise dans la Méditerranée puisqu'on vient de la retrouver dans un étang. Il finit par avouer qu'effectivement, il l'a bien déposée dans cet étang-là, qu'en fait, comme il l'avait violée, il ne voulait pas tellement expliquer où se trouver le corps pour qu'on puisse pas faire de prélèvement et prouver ce viol. L'autopsie qui va être faite, elle est un peu compliquée parce que ce corps, il a séjourné assez longtemps dans l'eau et quand un corps passe du temps dans un milieu humide, il se détériore beaucoup plus rapidement. Les légistes, ils vont pas pouvoir être formels sur le viol et sur l'agression sexuelle, mais en tout cas, ils vont plutôt quand même pencher pour des faits de nature sexuelle qui ont été commis. Et en fait, Marc Delpech, il va un peu profiter dans ses versions de cette incertitude. Il va d'abord laisser entendre que oui, il a bien violé Fatima Hidraou, puis quand il va comprendre qu'il n'y a pas de preuve vraiment scientifique de ce viol, il va revenir sur ses aveux en disant qu'en fait, il ne l'a pas violé.
Les policiers cherchent à savoir si Marc Delpech peut être tenu pour responsable des deux autres meurtres commis aux abords de la gare de Perpignan et de la disparition de Tatiana Andujar en 1995. Chez lui, des coupures de presse sont retrouvées sur Tatiana, ainsi qu'une étrange ébauche de roman ayant pour titre le prénom de l'adolescente et pour intrigue l'histoire d'une jeune femme qui disparaît dans le quartier de la gare. La police espère enfin avoir arrêté cet homme qui sème la terreur dans Perpignan. Mais au bout de quelques semaines, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Marc Delpech ne peut pas être poursuivi pour les trois autres meurtres. En 2004, il comparaît devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales à Perpignan pour le viol et le meurtre de Fatima. Le vendredi 18 juin, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Marc Delpech fait appel. Le mardi 28 juin 2005, un an plus tard, il est à nouveau condamné à la même peine. Mais tous les crimes ne sont pas résolus. En 2006, la famille de Tatiana, qui n'a jamais été retrouvée, et celle de Moctaria et Marie-Hélène, dont les corps ont été découverts atrocement mutilés, lancent un appel à témoins. Cela ne donne rien, mais elles ne renoncent pas pour autant à connaître un jour la vérité, et elles continuent à se battre. 8 ans plus tard, pendant l'été 2014, le laboratoire de police scientifique d'Écully, dans le Rhône, est doté d'une nouvelle version du FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Dans cette nouvelle version, il est possible d'intégrer des ADN partiels, ce qui n'était pas le cas avant. C'est plus coûteux et il n'est pas question d'utiliser cette technique dans toutes les affaires. Mais celle des meurtres de la gare de Perpignan est exceptionnelle. Et à ce titre, elle en bénéficie. Au mois d'octobre donc, une comparaison entre les ADN déjà versés au fichier et une empreinte partielle prélevée sur la chaussure droite de Moctaria Chaïb est effectuée. Et ça match. Cet ADN appartient à Jacques Ranson. Damien, qui est cet homme ?
Cet homme, il est né le 9 mars 1960 dans le département de la Somme. Il a donc 54 ans à l'époque. Alors, Jacques Ranson, c'est une biographie plutôt malheureuse. Un père alcoolique, 11 demi-frères et sœurs, une enfance vraiment compliquée. Alors, il s'est marié quand même. Il a eu un fils dont il avait même obtenu la garde après sa séparation. Et quand les enquêteurs vont commencer à faire un petit peu l'entourage, la personnalité de ce Jacques Ranson, ils vont entendre un certain nombre d'ex-compagne de Jacques Ranson qui vont quand même toutes à peu près évoquer un homme jaloux, plutôt violent et, précise-t-elle pour certaines, avec des demandes sexuelles anormales.
Il est déjà connu de la justice.
Même très connu. Hein. Sa première condamnation, elle remonte à 1982. 2 ans de prison pour une tentative de vol. Après, il va collectionner un certain nombre de procédures, alors notamment pour des vols et des violences. Mais en 1992, là, c'est une peine plus lourde. 8 années de prison pour viol. Il va sortir de prison en septembre 1997. La date est importante. Et il va quitter le département de la Somme pour venir s'installer où ? À Perpignan. Là, il va habiter pas très loin de la gare. Il va encore être condamné d'ailleurs pour des vols, des violences et encore une agression sexuelle. Pourtant, à l'époque, il travaille, il est en intérim, puis en CDD dans une société qui fait du négoce de fruits et légumes à Perpignan. Il a une vie sociale. Entre 2005 et 2012, il va s'installer avec une certaine Lolita, qui n'est pas majeure, hein, c'est une adolescente qui a 16 ans quand elle va le rencontrer, donc il y a une très grosse différence d'âge. Ils vont avoir 2 enfants ensemble. Et donc, quand il arrive à Perpignan, Jacques Ranson, c'est juste 2 mois environ, 2-3 mois avant la disparition de Mokhtaria Shaïb.
Est-ce qu'il reconnaît les meurtres dont on l'accuse ?
Eh bien oui, 17 ans après le meurtre de Mokhtaria Shaïb, il avoue ce meurtre. Donc, on tient un meurtrier de la gare de Perpignan, celui de Mokhtaria Shaïb.
Il aura donc fallu près de 17 ans pour lever un coin du voile sur l'affaire des disparus de Perpignan. L'homme qui est en garde à vue depuis mardi est passé aux aveux concernant l'un des crimes, en tout cas celui de Mokhtaria Shaïb. Il va être mis en examen pour viol et assassinat. C'est l'ADN et l'obstination des enquêteurs qui ont permis d'identifier le suspect. Et concernant les 2 autres cas, en revanche, il nie toujours.
Alors, il va finalement reconnaître aussi le meurtre de Marie-Hélène Gonzalez dans une audition. Il va aussi parler aux policiers d'une autre tentative d'assassinat sur une autre femme, toujours dans le quartier de Perpignan. Cette femme, elle sera d'ailleurs retrouvée. C'est une femme qui exerçait la prostitution dans le quartier de la gare et qui a effectivement été agressée très violemment par Jacques Ranson. Donc, il est mis en examen pour ces 3 faits, hein, Shaïb, Gonzalez et cette prostituée qui, elle, s'en est sortie, mais qui a été grièvement blessée. En revanche, on se rend compte qu'il ne peut pas être impliqué dans la disparition de Tatiana Andujar en 1995. C'est la première jeune femme qui disparaît dans le quartier de la gare en 1995. Ça ne peut pas être Jacques Ranson, tout simplement parce que Jacques Ranson, à cette période, il est détenu, il est en prison pour déjà une affaire de viol. Il ne sera libéré qu'en 1997. Et les policiers vont même aller jusqu'à vérifier qu'en 1995, il n'a pas eu une permission de quelques jours ou de quelques heures pour être bien sûr qu'il ne soit pas impliqué dans la disparition de Tatiana Andujar. Mais voilà, il ne peut pas être celui qui s'en est pris à Tatiana Andujar.
En revanche, pendant sa garde à vue, il va lui-même s'accuser d'autres meurtres.
Et surtout, il y a un rapprochement qui va être fait avec le meurtre d'Isabelle Ménage, un meurtre commis en 1986. Isabelle Ménage, c'est une jeune informaticienne, elle avait 20 ans, elle était partie marcher en forêt, son corps a été retrouvé dans la Somme, c'est-à-dire dans le département où vivait Jacques Ranson dans les années 80. Et surtout, sur la scène de crime, on trouve un cadavre qui a été mutilé.
Pour quelle raison est-ce que Jacques Ranson a découpé de manière chirurgicale le corps de ses victimes et comment est-ce qu'il avait cette compétence ?
Alors, en réalité, il y a eu probablement une erreur d'appréciation au début de l'enquête sur les meurtres de Perpignan. Pourquoi ? On a dit, en tout cas les légistes ont dit dans leur rapport, que ça ne pouvait être l'œuvre que d'un boucher, que d'un chirurgien. En fait, les expertises qui ont suivi ont démontré que ces découpes, elles n'étaient pas si professionnelles que ça, qu'elles étaient même quasiment à la portée de n'importe qui. On s'est toujours questionné sur pourquoi Jacques Ranson, en l'occurrence, avait commis ces mutilations. Certains ont dit que c'était sans doute pour conserver des trophées chez lui, des traces de ces crimes qu'il pouvait conserver. En fait, ce que lui a expliqué une fois, d'ailleurs dans le cadre d'un interrogatoire sur le meurtre d'Isabelle Ménage, c'est qu'en réalité, il prélevait ses organes, notamment les organes génitaux et les seins, pour ne pas laisser de traces ADN lui appartenant sur des parties du corps qu'il avait touchées.
Le lundi 26 mars 2018, Jacques Ranson, 56 ans, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour les meurtres de Mokhtaria Shaib et Marie-Hélène Gonzalez. Le vendredi 24 juin 2022, il est de nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, cette fois pour le meurtre d'Isabelle Ménage en 1986 dans la Somme.
Au chapitre justice à présent, cette nouvelle condamnation à perpétuité pour Jacques Ranson devant la cour d'assises de l'Aisne. Le tueur de la gare de Perpignan a été reconnu coupable hier du meurtre et du viol d'Isabelle Ménage en 1986 dans la Somme.
Marc Delpech, condamné pour le meurtre de Fatima Hidraou, est sorti de prison en 2022. La seule affaire non résolue parmi les quatre est celle de la disparition de Tatiana Andujar. Mais son dossier vient d'être rouvert à l'instruction par le pôle Cold Case de Nanterre, 28 ans après les faits. Depuis l'arrestation de Jacques Ranson, il n'y a pas eu d'autres disparitions de jeunes femmes dans le quartier de la gare à Perpignan. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Barbara Gouy, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.